De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour des blockbusters aux films plus confidentiels présents sur une petite partie du territoire que vous attendrez pour certains eh bien de découvrir en DVD ou VOD. C'est Cinérama qui débute aujourd'hui avec un sommaire bien fourni et trois films pour toi Marine.
Oui tout à fait, moi je vais vous parler de Rebelles de Alain Mauduit avec Cécile de France, je vais vous parler d'un film libanais qui s'appelle Nour et d'un film américain qui s'appelle With the Animals.
Et puis toi Manu, tu as vu le blockbuster
Captain Marvel donc, et puis je vais vous parler d'un petit film franco-grec Meltem.
Le très grand et le très petit.
Voilà.
Et puis moi, je vous parlerai aussi d'un film bon, qui n'est pas forcément confidentiel. Il était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'est Teret de Ojen Glavonic. Et on aura l'occasion eh bien, d'écouter le réalisateur serbe. Et comme c'est un road movie, eh bien, on aura aussi l'occasion de jouer au blind test avec bien des road movies la plupart connus quand même à découvrir. Voilà, c'est Cinérama qui débute. Et on va commencer avec un film français, Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, qui découvre un magot bien mal acquis.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Question diplôme. Je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais.
Et oui, Sandra, interprétée par Cécile de France, est une ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais qui n'a malheureusement donc jamais réussi sa reconversion professionnelle et se voit donc contrainte de revenir vivre dans la caravane de sa mère. Elle se voit également contrainte de décrocher un travail à l'usine de conserve de poissons locale. Et dès les premiers jours, eh bien, les ennuis commencent. Harcelée par son patron, elle le tue accidentellement et doit trouver un moyen de se débarrasser du corps, aidée de deux autres ouvrières, et les ennuis vont naturellement s'empirer.
Je viens pour la X.
Maman, pourquoi on achète pas la mini?
Non, on n'a pas les moyens.
Bah si t'achetais moins de drogue aussi.
Tu vas dégager, oui.
Oh. Hello. Ah. C'est nous qu'on n'a pas payé le loyer, c'est nous qui sommes en tort. Tu peux comprendre ça?
Jean-Mi a disparu avec le pognon des Belges.
Pourquoi tu leur as pas dit?
T'es con ou quoi? Tu veux qu'ils fassent des frites avec ma bite?
C'est quoi tout ce fric?
C'est rien, Dylan, va te recoucher.
Faut vraiment te calmer, hein.
Dis donc!
Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Le film est un ratage. Alors, autant il y a des ratages sympathiques, des films devant lesquels on est sincèrement peiné pour le réalisateur. Mais dans le cas de Rebelles, je suis juste sortie de la salle très énervée et je vais modestement essayer de résumer pourquoi c'est un ratage. Alors, premièrement, il faut arrêter de citer Tarantino. Surtout lorsque l'on joue davantage dans la cour de Fabien Antoniente. L'histoire du cinéma comporte des milliers de réalisateurs. Je m'adresse aux cinéastes, arrêtez d'avoir comme référence Quentin Tarantino. On en a un, c'est largement suffisant. D'autant que lorsque vous voulez rendre hommage à son cinéma, dans 9 cas sur 10, vous le faites très mal. Deuxième point, arrêtez de prendre des comédiennes pour leur faire jouer des personnages qu'on leur connaît déjà, comme Audrey Lamy ou Yolande Moreau, ici, qui jouent respectivement la petite délurée et la vieille lunaire, et qui en deviennent des caricatures d'elles-mêmes. Alors en revanche, Cécile de France, en Miss Nord-Pas-de-Calais déchue justement à contre-emploi, réussit à créer un personnage haut en couleur, à la fois antipathique, attachant, complexe. C'est une leçon de jeu, et dans pareil contexte, c'était pas gagné. Et pour terminer, troisième point, eh bien, on ne fait pas une comédie féministe en faisant de l'humour avec des femmes qui se prennent des claques, ce qui arrive environ 10 fois dans le film quand même. Hein. En plus, les coups sont très mal faits et je ne sais pas si c'est volontaire histoire de rendre les violences encore plus drôles. Mais donc, ça prouve quand même que même les effets spéciaux, le peu d'effets spéciaux qu'il y a dans le film, sont mal faits. Bref, Rebelles, c'était une comédie qui semblait rock'n'roll, déjantée et suffisamment mal élevée sur le papier pour être excitante. À l'arrivée, ça donne un film un peu rance, trop long et bancal, où pas grand-chose ne fonctionne.
Sauf le jeu de Cécile de France.
Sauf
quand
le
même.
Jeu de Cécile de France.
Oh, c'est vrai que c'est maigre. Alors, film féministe, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que Captain Marvel l'était? Non, non pas forcément.
On peut pas dire ça. Non,
mais ça allait quand même sur les traces de Wonder Woman.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
T'as la tête ailleurs?
Dans les nuages. Et toi?
Sur les épaules. Pour montrer à tous ces mecs de quoi on est capable. T'es prête?
Mais quand même hein.
Oui, mais bon. Alors, la lassitude, alors, voire la consternation éprouvée devant les productions Marvel de plus en plus indigentes, gangrénées par un toujours plus d'effets, de personnages, d'explosions, de fonds verts surtout. Alors se retrouve prise à défaut par ce Captain Marvel, plutôt une bonne surprise, déjouant agréablement nos craintes tenaces, mais fondées vu le passif. Alors dès le prologue, enlevé et intriguant, le film du duo Anna Boden et Ryan Fleck, alors s'écarte du traditionnel film de super-héros pour investir le champ du space opéra. Premier soulagement de cet épisode de transition, intronisant un personnage clé que l'on retrouvera dans Avengers Endgame pour affronter Thanos. Alors déjà, le titre s'avère trompeur, hein, l'héroïne ne s'appelle absolument pas Marvel, hein, mais au départ, Vers, qui vit sur la planète Kree, peuple humanoïde à la technologie très avancée et dirigé par une intelligence artificielle. Vers ne se souvient pas de sa vie antérieure au-delà de ses 6 années, ses nuits étant hantées par des rêves récurrents. Elle possède un super pouvoir énergétique dont elle ignore l'origine. Bon, elle est une sorte d'arme de destruction massive. Hein. Son mentor, Yon Rogg, lui apprend à maîtriser ses émotions afin de devenir une combattante exceptionnelle. Alors, suite à l'échec d'une mission sur une autre planète, Vers est capturée par des Skrulls, des métamorphes, des êtres pouvant prendre n'importe quelle forme. Vous suivez ?
Je comprends rien.
Non, je me doutais. Mais bon, non, mais c'est intéressant quand même d'en parler. Hein, de... Alors, leur leader, Talos, cherche une information dans l'esprit de Vers, soudain terrassé par des visions où elle se retrouve pilote de l'armée de terre, travaillant pour le docteur Wendy Lawson. C'est bon
Oui, il y a deux extraterrestres.
Voilà, c'est compréhensible. Ouais, ouais. Alors, elle parvient à se libérer et s'enfuit en direction de la Terre afin de trouver des réponses à son passé. Les apparences étant bien trompeuses, elle va apprendre à ses dépens qu'elle se trouve manipulée par son propre camp, entre autres, en l'occurrence par son mentor qui lui a toujours caché la vérité. Et elle va devoir faire confiance aux humains, notamment au flic Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson, ce qui n'est pas toujours évident.
Où êtes-vous né ?
À Huntsville, Alabama, mais je m'en souviens pas vraiment.
Comment s'appelait votre chien ?
Monsieur Toutou.
Monsieur Toutou ?
C'est ce que j'ai dit. C'est bon ?
Pas encore. Premier job ?
Soldat, dès que j'ai quitté le lycée. Et j'ai terminé colonel.
Et ensuite ?
Espion.
Où ça ?
Partout, pour cause de guerre froide. Belfast, Bucarest, Belgrade, Budapest, que des B, ça sonne bien.
Et maintenant ?
Je travaille dans un bureau depuis 6 ans à essayer de savoir d'où nos futurs ennemis vont débarquer. J'avoue que je ne m'attendais pas à les voir tomber du ciel.
Donnez-moi un détail d'ordre privé qui ne viendrait pas à l'esprit d'un Skrull.
Je ne peux pas avaler un toast tranché en diagonale.
Voilà, en fait, elle teste donc Nick Fury pour savoir s'il n'est pas un métamorphe, un Skrull. Alors, dans sa quête, hein, Vers va découvrir son identité, puisque c'est l'héroïne, c'est dit dans la bande-annonce, elle s'appelle Carol Danvers. Alors, le scénario bénéficie d'un traitement plutôt inventif. Hein. Par exemple, pour signifier que l'action se passe en 95, les auteurs ont truffé l'environnement de signes et références sans jamais en appuyer leur provenance. À commencer par cette affiche placardée dans un mur derrière de l'album des Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinity Sadness. Alors effectivement, sorti cette année-là. Alors entre la bande son très rock, Garbage, Nirvana, REM, Hole, Elastica, le t-shirt de Nine Inch Nails que porte très bien l'héroïne, et les débuts balbutiants d'Internet qui n'en finit pas de ramer, le film s'amuse beaucoup avec ses références vintage sans pour autant vampiriser le reste du film qui déploie efficacement son cahier des charges. Alors, la mise en scène ne propose pas un plan original, une idée de cinéma ou une quelconque recherche esthétique, mais s'en tient à illustrer un récit haletant, un peu handicapé, mais ça c'est un peu habituel, par un humour enfantin pas très heureux. Hein. Marque un peu la marque de fabrique des derniers Marvel. Bon, il y a aussi bien une réplique à deux voix fameuse dans ton cul dans le film, et oui, plutôt surprenant pour un produit aseptisé comme ça, mais bon, pourquoi pas. Alors sinon, les effets spéciaux sont remarquables, mais est-il utile de le souligner? Et puis surtout, les scènes d'action prenantes, pour une fois, découpées de manière lisible. Alors Brie Larson fait ce qu'elle peut pour défendre un personnage monolithique et sans grande envergure, mais très sympathique, surtout quand elle défonce les méchants avec la seule puissance de son bras nucléaire. Alors de là à vendre ce Captain Marvel comme un film féministe, faut quand même pas exagérer. Hein. Ce n'est pas la première fois que l'on voit une super-héroïne au cinéma. Le féminisme, selon Hollywood, hein, consiste à fantasmer la femme comme une guerrière, capable de rivaliser avec ses homologues masculins. Alors une vision qui date quand même depuis quelques décennies, déjà bien présente dans les comics, et puis au cinéma dès le premier Star Wars. Hein. Alors quant à Samuel L. Jackson, je ne l'ai pas reconnu, il donne l'impression d'avoir 20 ans de moins. Qui est quand même curieux.
C'est vrai, j'ai vu.
J'ai été complètement, je pensais que c'était son fils. Voilà. Mais non, mais c'est. Bon, Captain Marvel est au final un sympathique, on va dire, film de SF, assez enlevé, puis assez inventif, finalement, dans la conduite du récit. Alors, pour l'anecdote, hein, c'est juste une anecdote, le jour même où j'ai été voir le film, j'ai acheté par hasard un film qui s'appelle Under Pressure, dans un magasin, hein, donc, qui est en fait réalisé par les réalisateurs de...
Par le duo.
Par le duo. Et d'accord. Je ne savais pas. Qui s'appelle donc Anna Boden et Ryan Fleck.
Donc, tu nous en parleras peut-être un jour. Et puis, cette héroïne n'a rien à voir avec celle de Noor, dont tu vas nous parler, qui joue dans ce film, donc libanais.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Oui, un film de Khalil Dreyfus Zahour. Alors Nour est une jeune fille d'à peine 15 ans qui vit comme toutes les ados de sa campagne libanaise. Entre amour platonique avec son voisin Vassim et chapardage avec sa bande d'amis, elle profite de ses jeunes années dans un hédonisme simple, tout en rêvant d'ailleurs et d'université. Mais sa famille très traditionnelle lui réserve un autre sort. Maurice, un homme d'affaires de 35 ans, joué par le réalisateur lui-même d'ailleurs, a jeté son dévolu sur elle et compte bien l'épouser. Officiellement, bien sûr, au Liban, le mariage forcé est désormais interdit, hein, mais la jeune fille est contrainte par la pression de son grand frère et de sa mère, qui voient le mariage la seule façon de mettre sa fille à l'abri du besoin. Le film pointe assez intelligemment d'ailleurs d'autres aspects de cette société libanaise rurale et encore très traditionnelle, à savoir les rivalités entre familles, les femmes qui participent elles-mêmes à faire durer un patriarcat implacable et la religion qui gangrène tout. Alors on pense évidemment très fort à Mustang hein, pour la dénonciation faite d'une tradition qu'on pense obsolète mais qui reste terriblement vivace lorsque l'on s'éloigne des villes, pour sa construction aussi avec une première partie très bucolique qui se focalise sur les moments de bonheur passés entre la jeune héroïne et ses amis, avec une mise en scène à la fois espiègle et contemplative qui crée une sorte de mosaïque d'instants heureux, en opposition à une seconde partie faite de plans fixes en intérieur souvent qui fige le destin de la jeune fille. Et enfin, on pense à Mustang et bien pour la force et la fraîcheur de ces jeunes interprètes qui portent le film. Nour souffre néanmoins un peu de la comparaison hein, avec le film de Denise Gamze-Erguven. Il est un peu plus simple dans sa composition, un peu moins chatoyant dans sa mise en scène, ce qui ne l'a pas empêché hein, de recevoir quand même une pluie de récompenses dans de nombreux festivals et ce qui explique qu'il sorte eh bien, un peu tardivement sur nos écrans puisqu'il date de 2017. Mais on s'en réjouit, même si on aimerait bien, bah, pour changer une petite comédie libanaise, hein, pour changer un peu de drame.
Ça pourrait arriver. Merci Marine, on a décidément passé le cap hein, des films qui sont sur beaucoup d'écrans puisque nous allons parler maintenant de Teret, film qui nous vient de Serbie et c'est l'interview de ce cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Il y a eu des films hein, traitant du conflit des Balkans des années 90, mais tous n'ont pas eu l'audience qu'ils méritaient, d'autant que certains eh bien, n'étaient pas réalisés par des citoyens de l'ex-Yougoslavie. Voilà un film réalisé par un jeune réalisateur serbe, habitué au documentaire. Il s'agit de Teret, qu'on pourrait traduire par la charge ou la cargaison. Hein, pour son premier long métrage, alors Ožijan Glavonić, ou Glavonić, j'imagine, revient sur un épisode qui concerne l'histoire de son pays, la découverte d'un charnier avec des centaines de corps de Kosovars découverts à la périphérie de Belgrade. Des faits survenus dans les années 90, quand le réalisateur était encore enfant. Des faits qui n'ont été connus que longtemps après, comme si un tabou eh bien, avait muselé la société serbe. Ainsi, ce film questionne l'histoire sombre de son pays, la responsabilité vis-à-vis de la mémoire des crimes passés pour une génération, alors celle du réalisateur notamment, qui n'a pas participé au conflit, à défaut de voir partir les pères au combat ou en mission. Et une mission, eh bien, c'est justement ce qui occupe le personnage principal de ce road movie qui nous emmène alors, de la frontière avec le Kosovo jusqu'à Belgrade en Serbie. Nous sommes en 99, la Serbie est bombardée par l'OTAN et Vlada travaille comme chauffeur de poids lourd pour les militaires. Il doit conduire un petit camion en respectant des consignes précises hein, comme ne jamais ouvrir la remorque, éviter de s'arrêter, ne pas prendre les grandes voies de circulation et ne jamais, surtout au grand jamais, attirer l'attention sur soi. Autant de précautions qui laissent penser que le convoi est important, ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on en saura davantage à la fin du voyage. Le parti pris du réalisateur serbe est de nous placer au plus près du chauffeur et d'épouser son point de vue. On ne voit que ce qu'il voit et devine que ce qu'il perçoit. L'ensemble est rude, on traverse des paysages et des lieux marqués par la guerre. Il est fait gris, l'ensemble est austère. Alors on n'a pas là la fantaisie et l'éloquence d'un émir Kusturica, on le comprend, hein, c'est évident. Mais derrière cette rudesse, cette austérité, le réalisateur interroge non seulement la mémoire, mais aussi la responsabilité d'un pays et d'une génération. Alors aussi un moment, eh bien, bravant les règles, le conducteur fait grimper dans son camion un jeune qui décide de quitter son pays, voyant bien que celui-ci eh bien, va mal. Dans le même temps, il rejoint son propre fils qui semble insouciant vis-à-vis des maux que traverse son pays. Et au détour, eh bien, on aperçoit aussi un mariage comme quoi, bien, malgré l'horreur, la vie continue. Teret n'est pas un film facile, on sent bien que le réalisateur vient du documentaire, c'est-à-dire que ce sont des petites choses qui construisent la fiction, des attitudes, des mots ou des silences. Il y a le bruit du camion, hein, toujours, qui arrive avec bien des petits bruits qu'on entend à l'intérieur de la remorque. Alors bien sûr, on mesure assez vite que ce que transporte ce camion et le suspense eh bien, n'est pas le moteur de son long métrage. Le réalisateur s'intéresse à bien d'autres choses et il va nous en parler puisqu'on a pu le rencontrer cet automne.
It's the question of representation on
C'est vraiment cette question de la représentation. Et pour moi, c'est toujours comment fait-on pour représenter de telles choses.
More than 700 bodies.
Donc, en fait, il y avait 700 corps, même plus, dans ce trou, en fait, à côté de Belgrade.
And when you realize why that happened,
quand on voit ça, finalement, on est en plein questionnement. On se pose des questions sur le gouvernement, proprement dit, sur la nature de ces crimes, et puis surtout sur une personne et comment cette personne a pu œuvrer pour tout ça.
So in the case of the mass grave, it was discovered 2 years.
Et je pense que ce travail a été centré surtout sur la découverte de la vérité et comment on a appris cette vérité, encore une fois, avec un laps de temps qui était plus ou moins important, 2 ans pour savoir vraiment ce qui s'était passé, le personnage qui transporte, lui aussi, ne le savait pas, ne l'a su qu'après. Moi, je l'ai su 10 ans après. Et puis, c'est vraiment aussi sur le fait de ne plus faire semblant, hein, de ne plus accepter ces tabous national déjà. Un tabou qu'on peut avoir même dans l'intimité vis-à-vis de sa famille, ses amis, le fait de ne pas en parler, de ne pas traiter de ces sujets. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est cette découverte de la vérité avec tout ce qui va avec, en fait, hein, avec tout ce qui l'accompagne.
Na odredite što morate stići tačno u 20. Jel jasno?
Yeah, the idea was that
au début du film, on sait autant que le personnage et on va découvrir la vérité ensemble.
And that's why
pendant le travail sur le scénario, j'ai enlevé beaucoup d'éléments au fur et à mesure afin de libérer un petit peu l'histoire. En fait, je ne voulais pas faire un cours d'histoire. Voilà, je voulais faire un film.
So there are only 2 words that you know.
Il n'y avait que deux repères, en quelque sorte. Il y avait Kosovo, le retour à Kosovo avec le camion, et Belgrade. Et c'est tout. Et donc, si finalement on ne suit pas tout à fait, on peut quand même aller vérifier aussi après.
Na odredite što morate stići tačno u 20. Jel jasno?
Je n'ai jamais vu ce film comme un film de guerre. Pour moi, c'est un drame familial.
Because of this was always about the...
Finalement, le film traite de tous ces sentiments d'isolement, ces sentiments d'occupation, de confinement, hein, d'être dans un espace restreint aussi.
And for me, this character has the same...
Finalement, le personnage souffre des mêmes problèmes que ce que j'ai pu ressentir enfant. Hein. Et c'est pour ça que la caméra ne quitte jamais le personnage, se retrouve à l'intérieur du camion, etc.
I wanted to play a little with this.
J'ai voulu vraiment jouer sur les attentes et les stéréotypes, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on pourrait imaginer ce personnage comme étant un grand type, un peu costaud, style contrebandier, et j'ai voulu le montrer différemment. Hein. Et beaucoup, beaucoup de ce que je fais dans ce film, c'est ça aussi, c'est questionner les stéréotypes.
Or playing with the expectations.
Et jouer sur les attentes aussi.
Eugène Glavonic, ou Glavonic donc, le réalisateur de Terrette, qui nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial road movie. Et bien ce premier extrait que vous allez entendre est presque un clin d'œil à ce film serbe.
Tu veux que je te dise? Tu crèves de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre les types dans le dos, là, sans risque. Parce que les risques, tu les aimes pas, hein.
Mais je les aime pas parce que je les connais. Toi, t'es comme ça, tu comprends? Tu fonces sans regarder. Tu crois que t'es incassable. C'est facile parce que t'as pas d'imagination. Moi, je guette le caillou ou le trou qui va nous faire sauter.
Alors oui, parce que le réalisateur avait ce film en tête, c'est...
Le salaire de la peur de Clouseau.
Oui, film de 52. Allez, deuxième extrait.
Tout ce que la mer a à offrir, ce sont ces grosses bourrasques. Et de temps en temps... Une sensation de puissance. Il est vrai que je connais pas grand-chose à la mer. Mais ici, en tout cas, c'est comme ça. Et je sais aussi que dans la vie, le plus important, ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort. Et de se mettre à l'épreuve au moins une fois. de se retrouver au moins une fois dans la condition humaine la plus archaïque. D'affronter seule la nature aveugle et sourde, sans rien pour vous aider, si ce n'est vos mains et votre tête.
Alors ça a été trouvé vers la fin.
Ça a été trouvé péniblement. Oui.
Sean Penn, voilà, avec ce jeune étudiant qui traverse les États-Unis jusqu'en Alaska. Troisième extrait.
Avec les pièces et la main-d'œuvre, le total se monte à 247 dollars.
Je trouve que l'addition est un peu lourde pour un travail léger. Vous ne trouvez pas? Je n'ai que les yeux d'un vieillard, mais... C'est des pneus neufs, ça?
Bon, écoutez, ce sont des pneus de récupération, mais les sculptures sont bonnes.
Mes amis, vous me faites payer pour du bon ou pour du neuf?
Thorvald?
Là, on peut vous faire un petit prix.
Eh bien, je crois que la réduction devrait être d'une trentaine de dollars. Votre stylo est du même avis.
Alors, ça a été trouvé.
C'est une histoire vraie de David Lynch.
Film de 99. Et là, on varie les moyens de transport. On a débuté avec le camion, ensuite c'était plutôt le pouce. Et maintenant, c'est la tondeuse. Quatrième extrait.
Ça suffit, les conneries, merde. Ces deux filles, elles avaient encore leur chance. Avaient leur chance. Et toi, tu leur as tout saboté.
Non.
Là, elles ont de gros ennuis. Écoute-moi, je te rendrai personnellement responsable d'au moins une partie de ce qui va leur tomber dessus. Je te trouve pas sympathique. Alors, ou tu te mets à table, tu me déballes tout ça, et j'ai une petite chance de faire quelque chose pour ces filles, ou je serai sur ton dos toute ta vie comme une mouche sur une merde. Et tu peux te dire que je vais te faire chier à mort, c'est compris?
Oui, oui.
Alors là, il parle mal.
Très beau doublage.
Et c'est
Thelma et Louise.
Thelma et Louise de Ridley Scott, film de 91. Dernier extrait.
Tu commences à me faire chier avec tes motos, là, putain. Et tu vois pas que c'est foutu pour toi, là? Hein? C'est toi qui l'as dit, c'est toi, tout est fini, tout est fini. Tu comprends ça? Tes rêves d'ado, là, tes stats, tes champions, là, les champions. Même l'autre, là, Joël Robert, il t'a envoyé chier comme une merde.
Attends, mais Joël Robert, mais lui, il a le droit de me dire ça. Là. Tu sais qui c'est, Joël Robert?
Non, je sais pas qui c'est, non.
Joël Robert, il a été 6 fois champion du monde de motocross, hein, entre 1962 et 1972. Mmh. Hein? Lui, il a le droit de me traiter de merde. À côté de lui, je suis une merde. T'es une merde, on est des merdes. Et tu veux que je te dise même pire, on est mort.
T'es mort, moi, je suis vivant, moi.
Alors, ça a été trouvé.
C'est donc Altra.
Oui, de Benoît Delpine et Gustave Kervern, film de 2004 qui a réuni 55 000 spectateurs en France. Voilà, autant dire que vous n'étiez pas beaucoup dans les salles à voir ce film et vous pouvez bien toujours récupérer le VOD ou le DVD. Allez, un petit bonus pour terminer ce blind test.
Si vous nicht intervenieren, Maréchal Caput.
Das ist gar nicht möglich.
Ça, je ne peux pas vous dire, je ne vois pas. Alors, because, der Mann, der beau garçon, der beau garçon ist ein Salopard. Ein grosse Salopard. Qui veut beg your pardon, qui veut voler la Cadillac.
Jawohl. Ich werde das drehen, ich kann das Sie versprechen.
Ja, et ils souviennent. Ja, voilà, merci. Non, je crois qu'il y a la capitaux.
Oui. Donc ça a été trouvé, c'est
le Cornio.
Voilà, c'était le petit bonus, puisque eh bien, ils partent en Italie, Bourville et Dauphinès. Ainsi s'achève ce blind test, et nous passons maintenant à Metem.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Moi, je crois que je vais pas faire le ramadan aujourd'hui. J'attraperai demain.
Ah, donc toi, tu crois que le ramadan, c'est comme la pilule du lendemain, en fait?
Alors, une petite précision d'abord concernant le titre. Le Meltem est le nom d'un vent du nord particulièrement violent et imprévisible, soufflant en été entre la Grèce et la Turquie. Alors, il s'agit également d'un prénom turc, mais aussi plus communément d'une expression désignant les femmes fortes qui ne se résignent pas. Alors, Elena, jeune femme de 17 ans, incarne un peu cette Meltem. Alors, un an après le décès de sa mère, elle retourne dans sa maison de vacances sur l'île de Lesbos. Et oui, accompagné de Nassim et Sekou, ses amis banlieusards, excités à l'idée de se dorer au soleil dans cet endroit magique. Mais un événement imprévu va bousculer cette petite troupe, la rencontre avec Elias, jeune réfugié syrien qui va perturber leurs vacances, censé être un retour aux sources pour Elena, afin de régler quelques affaires pressantes, en l'occurrence la vente de la maison. Alors, le jeune cinéaste franco-grec, Basile Doganis, dessine un personnage attachant de jeune femme, énergique et lumineux, mais encore prisonnier de ses émotions, de ses souffrances. Sa rencontre avec Elias, déterminante, sonne comme le passage d'un enfermement sur soi, d'une difficulté à laisser les morts partir vers une possible reconstruction en s'ouvrant et en aidant les autres. Alors Daphné Patakia, aperçue brièvement dans quelques films dont Mes Provinciales de Jean-Paul Civérac, elle rayonne dans ce rôle difficile qu'elle porte à bout de bras. Alors cette ouverture vers l'extérieur va permettre à Elena d'éveiller sa conscience politique, mais aussi de cheminer, d'accepter la mort de sa mère et de renouer avec ses origines. Alors travaillé par des questions d'identité et d'appartenance, le réalisateur, tout juste lorsqu'il filme notamment Elias, beau personnage énigmatique, captant à travers son regard la détresse d'un passé difficile. Alors il imprime à son premier long métrage une forme vivante, empreinte d'un naturalisme solaire, délaissant le réalisme sordide, écueil intelligemment évité étant donné la teneur du projet.
Elias.
Enchanté. Je viens de tirer. Je suis arrivé il y a quelques jours.
Faut qu'on l'aide à rejoindre sa mère.
T'en ferais autant si tu le kiffais pas.
Putain, tu comprends vraiment rien.
Pitié, ça se rend paumé, sans racine là. Tu sais même pas où tu vas. T'es là, tu crois que tu vas sauver le monde.
Welcome, refugees.
T'as vu? Ils nous croient pour des clandos à cause de ta tête de blédard, là. Tu veux parler de blédard, Kirikou?
Sans forcer le trait, hein, la situation géopolitique est esquissée habilement en quelques plans significatifs à l'image de cet entassement de tentes de réfugiés sur une île de rêve subissant alors de plein fouet la crise d'un pays en 2015. Alors cette acuité du regard cerne subtilement le paradoxe d'un lieu magnifique rattrapé par une réalité insupportable. Alors l'intérêt de cette tragicomédie, hein, en mode mineur, s'avère cette greffe entre le drame intime d'une jeune femme et sa prise de conscience. Alors la loi visant notamment à condamner les gens qui aident les migrants révolte Elena et ses deux amis, un maghrébin et un noir, eux-mêmes conscients de leur propre déracinement en tant que Français d'origine étrangère. Alors hélas, la singularité de Meltem se délite un peu dans cette volonté un peu artificielle d'injecter une bonne dose de comédie, alors en se frayant un chemin du côté du feel-good movie à travers les personnages de Nassim et Sekou, alors trop caricaturaux pour être crédibles. La faiblesse de certains dialogues suscite parfois même une gêne dans ce désir sincère mais maladroit d'hybridation des genres. Le film n'avait pas besoin de cette dédramatisation un peu forcée. La mise en scène illustrative, hein, se met au service du récit, alors sans chercher à innover. Elle intéresse davantage alors, par ses omissions, hein, en excluant notamment le pathos, que par ses audaces. Cependant, elle instaure une ambiance particulière grâce aux soins apportés à la lumière, accentuant les couleurs colorées et chaudes et à l'envoûtante musique locale, alors principalement interprétée à l'oud. Alors la sincérité du projet, hein, ne transforme pas ce film, hein, en visite guidée touristique. Hein, une authenticité règne, le raffinement esthétique de la réalisation installe au contraire une ambiguïté, une fausse douceur, saisissant très bien le côté idyllique d'un endroit paradisiaque en surface. Alors il s'agit d'un, on va dire, un récit d'apprentissage, mais aussi une réflexion sur le deuil, qui est plutôt une réussite, alors malgré tout l'aspect comédique est quand même assez raté, on va dire.
Film dans les salles depuis le 13 mars, comme We the Animals, avec lequel nous allons terminer cette émission esthétique documentaire et séquence onirique au programme.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Premier film de Jérémy Azaghar, We the Animals, est une chronique familiale autour d'une fratrie un peu particulière. Quelque part, au fond des États-Unis, Jonah et ses frères vivent une enfance pas comme les autres. Leur père, figure autoritaire à la fois charismatique, imprévisible et violent, exerce sur eux et sur leur mère une fascination pleine de crainte. Violent ou enjôleur selon les jours, il disparaît et réapparaît au gré des disputes avec sa femme. Alors ce qui frappe tout de suite, hein, dans We the Animals, c'est cette beauté immédiate de l'image, son grain, le film ayant été tourné en pellicule, à la fois très réaliste et parfois totalement onirique. Le film, à hauteur d'enfant, témoigne de la relation chaotique de leurs parents et de la façon dont celle-ci va influencer leur façon d'être. Si les deux aînés vont se construire en prenant exemple sur l'attitude violente et viriliste du père, Jonah, le plus jeune, va peu à peu se découvrir différent d'eux, au gré des dessins qu'il compose dans un cahier tenu secret, ce qui donne d'ailleurs lieu à de très belles scènes quasi expérimentale où le dessin et la pellicule fusionnent. Accompagné tout du long par la beauté absolument bouleversante du très jeune comédien, le film réussit à imposer sa propre esthétique si particulière, sans jamais tomber dans une recherche visuelle trop surfaite, sans jamais laisser le style camoufler le fond de cette histoire qui ne révèle pas son véritable sujet tout de suite. We the Animals pourrait être entièrement muet, accompagné de musique, façon clip, tellement la force des images et le soin qui leur est apporté rendent les dialogues superflus. Ils sont d'ailleurs très rares, hein, mais à aucun moment on a l'impression que Jérémy Azaghar se regarde filmer, tant l'intérêt qu'il porte à ses personnages est palpable. C'est un premier film vraiment envoûtant et très prometteur, je pense, pour la suite de sa carrière. À moins qu'on le retrouve à faire des Marvel, je ne sais pas. Mais vraiment, We the Animals, je vous le recommande.
Eh bien, c'est bien de terminer comme ça.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on se retrouve encore pour une demi-heure. On aura des chroniques, on aura un blind test. Allez, à la semaine prochaine.